Audiolib présente Pétronille d'Amélie Nothomb.
Lu par Pulkéry Gadmer.
L'ivresse ne s'improvise pas. Elle relève de l'art qui exige dons et soucis. Boire au hasard ne mène nulle part. Si la première cuite est si souvent miraculeuse, c'est uniquement grâce à la fameuse chance du débutant. Par définition, elle ne se reproduira pas. Pendant des années, j'ai bu comme tout le monde, au gré des soirées, des choses plus ou moins fortes, dans l'espoir d'atteindre la griserie qui aurait rendu l'existence acceptable. La gueule de bois a été mon principal résultat. Je n'ai pourtant jamais cessé de soupçonner qu'il y avait un meilleur parti à tirer de cette quête. Mon tempérament expérimental a pris le dessus. À l'exemple des chamans amazoniens qui s'infligent des diètes cruelles avant de mâchouiller une plante inconnue dans le but d'en découvrir les pouvoirs, j'ai eu recours à la technique d'investigation la plus vieille du monde. J'ai jeûné. L'ascèse est un moyen instinctif de créer en soi le vide indispensable à la découverte scientifique. Rien ne me désole plus que ces gens qui, au moment de goûter un grand vin, exigent de « manger un truc ». C'est une insulte à la nourriture et plus encore à la boisson. « Sinon, je deviens pompette », bredouillent-ils, aggravant leur cas. J'ai envie de leur suggérer d'éviter de regarder de jolies filles. Ils risqueraient d'être charmés. Boire en voulant éviter l'ivresse est aussi déshonorant que d'écouter de la musique sacrée en se protégeant contre le sentiment du sublime. Donc, j'ai jeûné. Et j'ai rompu le jeûne avec un veuf cliquot. L'idée était de commencer par un bon champagne. La veuve ne constituait pas un mauvais choix. Pourquoi du champagne? Parce que son ivresse ne ressemble à nul autre. Chaque alcool possède une force de frappe particulière. Le champagne est l'un des seuls à ne pas susciter de métaphores grossières. Il élève l'âme vers ce que dut être la condition de gentilhomme à l'époque où ce beau mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé. Il exalte l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci. Pour ces motifs, j'avais pensé qu'on pouvait tirer de cet élixir un parti encore meilleur. Dès la première gorgée, j'ai su que j'avais raison. Jamais le champagne n'avait été à ce point exquis. Les 36 heures de jeûne avaient affûté mes papilles gustatives qui décelaient les moindres saveurs de l'alliage et tressaillaient d'une volupté neuve, d'abord virtuose, bientôt brillante, enfin transie. J'ai continué courageusement à boire et, à mesure que je vidais la bouteille, j'ai senti que l'expérience changeait de nature. Ce que j'atteignais méritait moins le nom d'ivresse que ce que l'on appelle, dans la pompe scientifique d'aujourd'hui, un état augmenté de conscience. Un chaman aurait qualifié cela de transe, un toxicomane aurait parlé de tripe. J'ai commencé à avoir des visions. Il était 18h30. L'obscurité s'installait autour de moi. J'ai regardé vers le lieu le plus noir et j'ai vu et entendu des bijoux. Leur éclat multiple bruissait de pierres précieuses, d'or et d'argent. Une reptation serpentine les animait. Ils n'appelaient pas les coups, les poignets et les doigts qu'ils auraient dû orner. Ils se suffisaient à eux-mêmes et proclamaient l'absolu de leur luxe. À mesure qu'ils s'approchaient de moi, je sentais leur froid de métal. J'y puisais une jouissance de neige. J'aurais voulu pouvoir enfouir mon visage en ce trésor glacé. Le moment le plus sidérant fut celui où ma main éprouva pour de bon le poids d'une gemme au creux de la paume. J'ai poussé un cri qui a anéanti l'hallucination. J'ai bu une nouvelle flûte et j'ai compris que le breuvage provoquait des visions qui lui étaient apparentées. L'or de sa robe avait coulé en bracelets, les bulles en diamants. Au froid de l'argent répondait le glacé de la gorgée. L'étape suivante a été la pensée. Pour autant que l'on puisse qualifier de tel le flux qui s'est emparé de mon esprit. Aux antipodes des ruminations qui peuvent l'engluer, il s'est mis à virevolter, à pétiller, à fulminer des choses légères. C'était comme s'il cherchait à me charmer. Cela lui ressemble si peu que j'ai ri. J'ai tellement l'habitude qu'il m'adresse des récriminations à l'exemple d'un locataire indigné de la mauvaise qualité du logement. D'être soudain une si agréable société pour moi-même m'a ouvert des horizons. J'aurais aimé être de si bonne compagnie pour quelqu'un. Qui ? J'ai passé en revue mes connaissances, parmi lesquelles il ne manquait pas de gens sympathiques. Je n'en ai repéré aucune qui convienne. Il aurait fallu un être qui accepte de se plier à cette assaise et de boire avec une ferveur équivalente. Je n'avais pas la prétention de croire que mes divagations auraient pu divertir un pratiquant de la sobriété. Entre-temps, j'avais vidé la bouteille et j'étais fin saoul. Je me suis levée et j'ai essayé de marcher. Mes jambes s'émerveillaient qu'en temps normal, une danse si compliquée n'exige aucun effort. J'ai titubé jusqu'au lit et je m'y suis effondrée. Cette dépossession était un délice. J'ai compris que l'esprit du champagne approuvait ma conduite. Je l'avais accueilli en moi comme un hôte de marque, je l'avais reçu avec une déférence extrême, en échange de quoi il me prodiguait ses bienfaits à foison. Il n'était pas jusqu'à ce naufrage final qui ne soit une grâce. Si Ulysse avait eu la noble imprudence de ne pas s'attacher au mât, il m'aurait suivi là où m'entraînait l'ultime pouvoir du breuvage. Il aurait coulé avec moi au fond de la mer, bercé par le chant blond des sirènes. Je ne sais combien de temps j'ai séjourné dans ces abysses, en un stade intermédiaire entre le sommeil et la mort. Je m'attendais à un réveil comateux. Je me trompais. Au sortir de cette plongée, j'ai découvert une volupté autre encore. Comme confite dans le sucre, j'éprouvais puissamment les moindres détails du confort qui m'environnait. Le contact des vêtements avec la peau me faisait tressaillir. La sensation du lit qui recevait ma faiblesse propageait une promesse d'amour et de compréhension jusqu'à la moelle de mes os. Mon esprit marinait dans un bain de départ d'idées, au sens étymologique. Une idée est d'abord quelque chose que l'on voit. Je voyais donc que j'étais Ulysse après le naufrage, échoué sur une plage indéterminée, et avant d'y élaborer un plan, je savourais l'étonnement d'avoir survécu, de posséder des organes intacts et un cerveau pas plus atteint qu'avant, et de gésir sur la partie solide de la planète. Mon appartement parisien devenait le rivage inconnu, et je résistais au besoin d'aller aux toilettes pour garder plus longtemps la curiosité de la mystérieuse peuplade que je ne manquerais pas d'y croiser. À la réflexion, c'était l'unique imperfection de mon état. J'aurais voulu pouvoir le partager avec quelqu'un. Nausicaa ou le cyclope m'auraient convenu. L'amour ou l'amitié seraient des caisses de résonance idéales à tant d'émerveillement. Il me faut un compagnon ou une compagne de beuverie, ai-je pensé. J'ai passé en revue les gens que je connaissais à Paris, où je venais à peine de m'installer. La liste courte de mes relations comportait soit des personnes très sympathiques, mais qui ne buvaient pas de champagne, soit de vrais buveurs de champagne qui ne m'inspiraient guère de sympathie. J'ai réussi à me rendre aux toilettes. De retour, j'ai regardé par la fenêtre la maigre vue de Paris qui s'offrait à moi. Des piétons foulaient les ténèbres de la rue. « Ce sont des Parisiens », ai-je songé à la manière d'une entomologiste. Il me paraît impossible que parmi tant de gens, je ne puisse trouver l'élu ou l'élue. Dans la ville lumière, il doit y avoir quelqu'un avec qui boire la lumière. J'étais une romancière de 30 ans qui débarquait à Paris. Les libraires m'invitaient à dédicacer chez eux, je ne refusais jamais. Les gens affluaient pour me voir, je les accueillais avec le sourire. « Elle est gentille », disait-on. En vérité, je pratiquais une chasse passive. Proie des curieux, je les regardais tous en me demandant ce que chacun vaudrait comme compagnon de beuverie. Prédation combien hasardeuse, car enfin, à quel signe détecte-t-on un tel individu? Déjà, le mot « compagnon » n'allait pas, qui a pour étymologie le partage du pain. il me fallait un convignon ou une convigne. Certains libraires avaient l'heureuse initiative de me servir du vin, parfois même du champagne, ce qui me permettait de jauger dans l'œil des gens l'étincelle du désir. J'aimais que l'on ait pour mon verre un regard de convoitise, pourvu qu'il ne fût pas trop appuyé. L'exercice de la dédicace repose sur une ambiguïté fondamentale. Personne ne sait ce que l'autre veut. Combien de journalistes m'ont-ils posé cette question ? Qu'attendez-vous de ce genre de rencontre ? À mon sens, l'interrogation est encore plus pertinente pour la partie adverse. À part les rares fétichistes pour qui la signature de l'auteur compte réellement, que viennent chercher les amateurs d'autographes ? Pour ma part, j'éprouve une curiosité profonde envers ceux qui viennent me voir. J'essaie de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ce point n'aura jamais fini de me fasciner. Aujourd'hui, la question est un peu moins mystérieuse. Je ne suis pas la seule à avoir observé que les plus jolies filles de Paris font la queue devant moi. Et je remarque avec amusement que beaucoup de gens fréquentent mes dédicaces pour draguer ces beautés. Les circonstances sont idéales, car je dédicace à une lenteur accablante. Les séducteurs ont donc tout leur temps. Mais mon récit se situe fin 1997. À cette époque, le phénomène sautait moins aux yeux, ne serait-ce que parce que j'avais alors moins de lecteurs, diminuant ipso facto la probabilité d'y inclure des créatures de rêve. C'était des temps héroïques. Les libraires me servaient peu de champagne. Je n'avais pas encore de bureau chez mon éditeur. Je repense à cette période avec le même effroi ému que notre espèce quand elle se remémore la préhistoire. Au premier regard, je la trouvais si jeune que je la pris pour un garçon de 15 ans. Cette juvénilité était confirmée par l'intensité exagérée des yeux. Elle me dévisageait comme si j'avais été le squelette du glyptodon du muséum du Jardin des Plantes. Je suis souvent lue par des adolescents. Quand il s'agit d'une lecture imposée par le lycée, c'est d'un intérêt modéré. Lorsqu'un môme me lit de sa propre initiative, c'est toujours fascinant. Aussi accueillis-je le garçon avec un enthousiasme non fin. Il était seul, ce qui prouvait qu'aucun professeur ne l'envoyait. Il me tendit un exemplaire du Sabotage amoureux. Je l'ouvris à la page de garde et prononçai la formule rituelle. « Bonsoir. C'est à quel nom ?»« Petroni Fanto », répondit une voix peu sexuée, cependant plus féminine que masculine. Je sursautai, moins de découvrir le véritable sexe de l'individu que d'apprendre son identité. « C'est vous ?» m'écriai-je. Combien de fois ai-je vécu ce moment en dédicace ? Voir apparaître devant moi une personne avec qui je corresponds. Le choc est toujours violent. Passer d'une rencontre de papier à une rencontre de chair et d'os, c'est changer de dimension. Je ne sais même pas si c'est passer de la deuxième à la troisième dimension, parce que c'est peut-être le contraire. Souvent, voir le correspondant en vrai, c'est régresser, rejoindre la platitude. Et ce qui est terrible, c'est que c'est irrémédiable. Si l'apparence de l'autre, pour Dieu sait quel motif, ne convient pas à l'altitude d'une correspondance, celle-ci n'atteindra plus jamais son niveau. On ne pourra ni l'oublier, ni en faire abstraction. Du moins, moi, je ne le peux pas. C'est absurde, car ces échanges ne visent pas à la galanterie. L'erreur serait de croire que le physique compterait seulement en amour. Pour la majorité des gens à laquelle j'appartiens, le physique compte en amitié et même pour les relations les plus élémentaires. Je ne parle pas ici de beauté ni de laideur. Je parle de cette chose si vague et si importante que l'on nomme physionomie. Au premier coup d'œil, il y a des êtres qu'on aime et des malheureux qu'on ne peut pas encadrer. Le nier serait une injustice supplémentaire. Bien sûr, cela peut évoluer. Il y a des gens dont l'apparence rebute, mais qui sont si formidables qu'on va pouvoir s'y habituer, voire apprendre à apprécier leur tête. Et l'inverse se vérifie. Des êtres au physique avantageux vont nous paraître peu à peu sans charme si leur personnalité nous déplaît. Il n'empêche qu'il faut composer avec cette donnée de départ. Et l'instant de la rencontre est celui où l'on prend si soudain la mesure du corps de l'autre. « C'est moi, » répondit Petroni. « Je ne vous imaginais pas comme ça. ne pus-je m'empêcher de dire. « Comment m'imaginiez-vous » demanda-t-elle. Suite à ma déclaration idiote, il était inévitable qu'elle me pose cette question. Or, je ne l'avais pas réellement imaginée. Quand on correspond avec quelqu'un, on se construit non pas une image, mais une intuition confuse de l'apparence du destinataire. Petroni Fanto m'avait envoyé, pendant les 3 mois précédents, 2 ou 3 lettres manuscrites dans lesquelles elle ne m'avait pas dit son âge. Elle m'avait écrit des choses si profondes et si ténébreuses que j'avais pensé avoir affaire à une personne vieillissante. Et je me retrouvais nez à nez avec une adolescente au regard de piment rouge. « Je vous croyais plus âgée. »« J'ai 22 ans, » dit-elle. « Vous avez l'air plus jeune. » Elle leva les yeux au ciel avec un agacement qui me donna envie de rire. « Que faites-vous dans la vie ?»«
Étudiante, » dit-elle.
Et sans doute pour couper court à la question suivante, elle ajouta. « J'ai fait un master en littérature élisabéthaine. J'écris un mémoire sur un contemporain de Shakespeare. »
« Admirable. Quel contemporain de Shakespeare ?»«
Bon, vous ne le connaissez sûrement pas, » répondit-elle avec aplomb.
J'éclatais de rire. « Et vous trouvez le temps de lire mes livres entre ceux de Marlowe et ceux de John Ford ?»«
Il faut bien s'amuser. »«
J'aime être votre divertissement, » dis-je en guise de conclusion. Je lui aurais volontiers parlé plus longtemps, mais elle n'était pas la dernière de la file. La rencontre de dédicace doit être brève, ce qui s'avère le plus souvent libérateur. J'inscrivis quelques mots sur la page de titre de son exemplaire du Sabotage amoureux. Aucune idée de ce que je pus écrire. Sauf exception, ce qui compte pour moi dans une séance de dédicace, ce n'est pas la dédicace. Il y a 2 attitudes possibles chez ceux à qui je viens de signer un livre. Il y a ceux qui partent avec leur butin et ceux qui se rangent sur le côté et me regardent jusqu'au bout de la séance. Petroni resta et m'observa. J'eus l'impression qu'elle voulait me consacrer un documentaire animalier. C'était dans cette merveilleuse et minuscule librairie du 17e arrondissement, l'Astrée, 69 rue de Lévis. Michel et Alain Lemoine, comme de coutume, recevaient l'écrivain et les lecteurs avec une gentillesse désarmante. Comme il faisait déjà froid en cette soirée de fin octobre, ils servaient à tous un verre de vin chaud. Je me délectais du mien et je remarquais que Petroni ne dédaignait pas le sien. Elle avait vraiment l'apparence d'un garçon de 15 ans. Même ses longs cheveux retenus en un catogan étaient ceux d'un adolescent. Débarqua un photographe professionnel qui commença à canarder sans me demander mon avis. Afin de ne pas m'irriter, je feignis de ne pas m'apercevoir de son manège et continuai à rencontrer mes lecteurs. Bientôt, le malotru ne se contenta plus d'être ignoré et fit aux gens le geste signifiant qu'ils devaient s'écarter. La fumée commença à me sortir par les oreilles et j'intervins. « Monsieur, je suis ici pour mes lecteurs et non pour vous. Donc, vous n'avez pas à donner d'ordre à qui que ce soit. »«
Je travaille pour votre gloire, » dit le sycophante en continuant son shooting.
« Non, vous travaillez pour votre argent et sans aucune politesse. Vous avez déjà pris beaucoup de photos, à présent, c'est terminé.
C'est une atteinte à la liberté de la presse. »
Vociféra celui qui prouvait ainsi sa véritable nature de paparazzi. Michel et Alain Lemoine étaient épouvantés de ce qui se déroulait dans leur librairie au nom de romans précieux et n'osaient réagir. Ce fut alors que Petroni attrapa l'individu d'une main par la nuque et l'entraîna à l'extérieur avec une fermeté sans réplique. Je ne sus jamais exactement ce qui se passa. Mais je ne revis pas le mitrailleur et aucune de ses photos ne fut repérable dans la presse. Personne ne commenta l'incident. Je continuais à dédicacer avec des sourires. Ensuite, les libraires, quelques fidèles clients et moi, nous achevâmes le vin chaud en bavardant. Je pris congé et marchai vers la station de métro. Au bout de la rue de Lévis, à cause de l'obscurité, je ne vis pas la petite silhouette qui m'attendait. « Petroni !» m'écriai-je, surprise.
« Quoi ? Vous trouvez que c'est du harcèlement ?»«
Non. Merci pour le photographe. Que lui avez-vous fait ?»«
Je lui ai expliqué ma façon de penser. Il ne vous dérangera plus. »«
Vous parlez comme dans un film de Michel Audiard. »«
Si je vous écris, vous me répondrez encore ?
Bien sûr.
Elle me serra la main et disparut dans la nuit. Je descendis dans le métro, enchantée de cette rencontre. Petroni me parut digne des contemporains de Shakespeare qu'elle étudiait. Des mauvais garçons, toujours prêts à se battre.